Séquence très politique la semaine dernière avec la visite de la ministre des Outre-mer, mais aussi le retrait du Palikat du FLNKS, des sujets au cœur de la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. Faire connaître le monde de l'entrepreneuriat à la jeunesse calédonienne, la caravane qui a parcouru le territoire ces deux dernières semaines a atteint ses objectifs. C'est un rendez-vous toujours très attendu par les apiculteurs professionnels. C'est aujourd'hui le 7e concours des miels de Nouvelle-Calédonie. À Grenoble, un jeune de 12 ans blessé par balle lors d'un règlement de compte lié au trafic de drogue. Le cas des MNA, les mineurs non accompagnés, préoccupe les collectivités. Et puis inciter les entreprises tricolores à investir en France. Le nouveau sommet Choose Friends, prévu la nuit prochaine pour nous, est destiné uniquement aux investisseurs français. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Une fois que nous aurons développé tous ces titres, on se retrouvera pour les magazines des sports du lundi avec de nombreux résultats. Bonjour Mickaël Giuneschi.
Bonjour Jean-François.
Notamment du tennis, la saison tennis s'est terminée et elle a consacré un Italien.
Oui, un duel au sommet qui aura vu Yannick Sinner s'imposer sur Carlos Alcaraz 7-6, 7-5 à Turin. Encore une fois, les deux premiers à l'ATP croisaient le fer pour ce dernier titre de la saison. L'Italien gagne ce dernier tournoi, mais c'est l'Espagnol qui termine toutefois en tête du classement mondial. Ça promet encore de beaux chocs à venir pour 2026.
On parlera aussi football, on reviendra évidemment sur l'élimination de Magenta au 7e tour de la Coupe de France. C'était samedi face à Mulhouse au stade du Madeleine.
Exactement, l'AS Magenta qui s'est piégé avant même de pouvoir lutter à armes égales. Pourtant, il y avait des possibilités mais les champions de Calédonie ont payé les frais d'une mauvaise entrée en matière, sous la pression avant de montrer un meilleur visage une fois au pied du mur. À 10 contre 11 et après avoir concédé l'ouverture du score sur pénalty, défaite 3-0 à l'arrivée mais une solide expérience engrangée pour cette jeune équipe de l'ASM.
Un dispositif là, ce sera la semaine prochaine, un événement sportif mais aussi ludique et fun, la Rainbow Race.
Exactement, fun c'est bien le mot, la 8e édition de la course la plus colorée et même la plus déjantée de Calédonie. Ce sera samedi sur la promenade Pierre Vernier, 5 km. Le principe est simple, le fun avant tout en étant aspergé de couleurs tout au long du parcours pour finir l'effort sur un arc-en-ciel. Notre invitée sera son organisatrice Caroline Favier.
Rendez-vous est pris donc pour le magazine des sports dès la fin de ce journal. La semaine dernière a été très politique avec la visite de la ministre des Outre-mer. Au terme de la dernière réunion plénière avant son départ, tous les groupes politiques, à l'exception du FLNKS, se sont engagés à poursuivre les discussions relatives à la mise en œuvre de l'accord. Naïma Moutchou a également annoncé une consultation citoyenne anticipée avant l'adoption de la loi constitutionnelle. Ce sera probablement en février, conformément au calendrier envisagé lors de la signature de l'accord de Bougival. Les partenaires se sont aussi accordés à lancer un plan de relance à la hauteur des défis de la Nouvelle-Calédonie. Sur ce point, le MEDEF estime avoir été entendu, mais attend maintenant des réponses concrètes sur les aides de l'État pour l'année prochaine. Écoutez sa présidente Mimsy Dele.
Nous, ce que nous soulignons, c'est la volonté de tenir un planning serré sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Nous espérons avoir de la visibilité le plus tôt possible. Pour la partie économique, mais le travail en fait se poursuit plutôt en coulisses avec les équipes de Claire Durieux. Nous travaillons toujours sur le plan de relance économique pour lequel maintenant nous attendons très précisément les arbitrages budgétaires de l'État. Et c'est ce qui nous a manqué pendant cette semaine de visite de la ministre. Nous avons quand même noté que ces arbitrages seraient pris à son retour à Paris. Je pense que les besoins sont bien compris, les priorités également bien identifiées. Maintenant, pour nous, le réalisme impose d'avoir une réponse sur les arbitrages budgétaires parce que c'est bien eux qui vont déterminer bien les montants qui pourront être alloués à ce plan de relance sur l'année 2026, qui est vraiment l'année pour nous charnière. Donc, les messages ont été passés, ont été entendus. Nous espérons maintenant des clarifications et être rassurés le plus rapidement possible.
Hier soir, la porte-parole du gouvernement, Maude Bréjean, a affirmé que des compromis arrivent à se nouer concernant le budget de la France et que le débat parlementaire devrait encore durer 5 semaines. C'est aussi pendant la visite de la ministre des Outre-mer que le Palikat a annoncé qu'il se retirait définitivement du FLNKS. On retrouve tout de suite, et comme chaque lundi, la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir.
Ils ont tué le FLNKS. La folie destructrice, les oukases, la démesure, la provocation permanente, les menaces sous-jacentes et le refus borné du dialogue de la part de l'UCCCAT auront eu raison de la coalition indépendantiste qui, bon an mal an, avait réussi à survivre pendant 4 décennies. Depuis 1984, le FLNKS s'était imposé comme un partenaire majeur de la vie politique. Depuis plus de 40 ans, il était l'interlocuteur incontournable du dossier calédonien sur les scènes politiques nationales et internationales. Le coup d'état de l'UCCCAT qui a imposé Christian Théin comme président aura mis fin à cette suprématie d'une coalition que l'on croyait insubmersible. parce que ces 41 ans n'auront pas été un long fleuve tranquille. Les divisions ont toujours été très vives entre les composantes du FLNKS et notamment entre l'Union calédonienne et le PALIKA. L'UC a toujours revendiqué son ancienneté, sa légitimité et ses morts face aux responsables d'un parti de libération kanak qualifié de brasseur d'air et d'opportuniste. Mais malgré les crises, les drames, les divergences, les dissidences, l'attelage aura tenu jusqu'à ce que l'UCCCAT lui porte le coup de grâce. Les violences de mai 2024 et le refus de toute négociation de la part des dirigeants du Nouveau Front ont amené le PALIKA à choisir d'abord le retrait, puis le départ définitif du FLNKS. Et l'UPM, qui réunissait son congrès ce week-end, devrait, selon toute vraisemblance, choisir la même rupture. Incontestablement, ce divorce va affaiblir le camp indépendantiste. Mais il ne faut pas pour autant que les partisans de la France fassent dans l'angélisme ou la naïveté. Le PALIKA reste un parti indépendantiste et marxiste qui a seulement choisi une autre voie que celle de l'UCCCAT pour arriver à la pleine souveraineté. Et d'ailleurs, il ne s'en cache pas. Toutes ces dernières années, il a joué la carte de l'ouverture aux autres communautés pour faire miroiter une indépendance dans laquelle chacun aurait sa place. Et s'il est devenu depuis quelques mois l'interlocuteur des partisans de la France et le bon élève de Bougival, il joue déjà de son statut privilégié pour réclamer une amélioration de l'accord signé le 12 juillet, une amélioration qui, en réintroduisant la logique d'un acte d'autodétermination, reviendrait à bousculer les fragiles équilibres qui ont été trouvés. La prudence s'impose donc dans la nouvelle donne créée par la mise à l'écart du nouveau FLNKS, qui d'ailleurs n'a plus de FLNKS que l'étiquette. Et la nouvelle ministre des Outre-mer a sa part dans cette marginalisation, tant elle ne l'aura pas ménagée. Cela fait longtemps que l'on n'avait pas entendu un représentant de l'État être aussi sévère à l'égard du FLNKS. Naïma Moutchou a en effet dressé un diagnostic sans concession. Le FLNKS, dit-elle, veut rester en dehors de l'accord de Bougival. Le mot même de Bougival crispe la délégation que j'ai reçue. Et dans ces conditions, explique-t-elle, il y a une forme d'impasse au sein du FLNKS. Mais c'est une impasse que je ne peux pas accepter parce que la Calédonie ne peut pas rester immobile. Et la ministre de conclure, on ne peut pas perdre de temps. Et donc le blocage de l'un ne doit pas bloquer l'ensemble. Le message est clair. Puisque le FLNKS ne veut pas faire avec les autres, on va faire sans le FLNKS. Et c'est le second coup de massue pour l'UCCCAT après le départ du PALIKA. Pour concrétiser cette volonté de faire sans le nouveau FLNKS, la ministre annonce la décision prise avec l'ensemble des délégations politiques qui soutiennent Bougival, la tenue d'une consultation citoyenne anticipée. En clair, on inverse le calendrier. La consultation des Calédoniens se déroulera en février comme prévu, mais elle aura lieu avant le congrès de Versailles, qui devait adopter la loi constitutionnelle. Ce sont donc les Calédoniens qui diront oui ou non à Bougival avant les parlementaires. Et on peut penser que le résultat de cette consultation citoyenne influera sur le vote des députés et des sénateurs. Reste que cette consultation risque de se dérouler sans le nouveau FLNKS. Mais c'est inéluctable, ils ont tué le FLNKS.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir que vous retrouvez sur notre site internet. Vous pouvez aussi, vous le savez, comme chaque semaine, la réécouter cet après-midi. Ce sera juste après le flash de 16h.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure de votre rendez-vous. SMS sur Radio Rythme Bleu avec la question du jour. Êtes-vous favorable à la consultation citoyenne anticipée sur l'accord de Bougival qui a été annoncé par la ministre des Outre-mer au terme de sa visite? Si vous y êtes favorable, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Il est 11h39, une première pause. Dans un instant, on se retrouve pour évoquer le reste de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Tu rêves d'aventure cet été? Avec les canettes Nescafé glacées, tente ta chance!
À gagner, une plate 40 chevaux, un paddle, un kayak ou encore un kit de pêche ou de plongée.
Jouez jusqu'au 31 décembre en achetant deux canettes Nescafé, notez vos coordonnées au dos du ticket, puis déposez-le en magasin ou rendez-vous sur jeunesle.nc. Et pour participer gratuitement, direction Nestlé.
Jeu sans obligation d'achat, règlement complet chez Maître Citrita, huissier à Nouméa.
Des piqûres regroupées ou alignées sur votre peau qui vous démangent, ce sont des punaises de lit. Pensez Formula 4D, les punaises maîtrisées par une équipe appliquée. Info sur formula4d.com.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Après deux semaines à parcourir la Grande Terre, la caravane de l'entrepreneuriat est rentrée à bon port. C'était vendredi dernier. Pendant 15 jours, elle a transporté des lycéens, des professeurs, des entrepreneurs motivés pour promouvoir l'entrepreneuriat auprès des jeunes du territoire, Charlotte Coulson.
Il n'y a pas d'âge pour commencer à entreprendre. C'est la conviction des professeurs du lycée Jules Garnier qui ont lancé l'année dernière le parcours entrepreneur au sein de leur établissement. Aujourd'hui, ils rassemblent une soixantaine de jeunes qui, petit à petit, ont appris à identifier des problèmes dans leur quotidien et à imaginer une solution. En bref, tout ce qui fait la manière de penser d'un entrepreneur. Après un an d'expérience, ils ont souhaité partager leur vécu avec d'autres jeunes en dehors de Nouméa et se sont lancés lundi 3 novembre dans un tour de Calédonie à bord d'une caravane. Ils sont rentrés vendredi dernier et dans le cortège, il y avait notamment Lycée Capouillet, élève de première STMG, qui a rencontré des jeunes de Yaté à Koumac pendant deux semaines.
Au départ, j'étais excitée comme tous les camarades avec qui j'étais. J'ai parlé de mon parcours, comment j'ai débuté, etc. Comment je me sentais quand je me suis lancée dans cette démarche-là. Non, au départ, j'y croyais pas du tout. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est qui roule dans une Lamborghini, Porsche, etc. Hein. Enfin, c'est mon père. Hein. Après, c'est maintenant, je suis confiante, je sais. Oui, j'étais attentive. Pour eux, c'était une chance qu'on arrivait là parce que du coup, c'était un peu comme des opportunités, c'était des portes pour eux. Par exemple, la plupart des communes et des élèves ne connaissaient pas l'ADI. Et dès qu'ils ont vu ce que l'ADI pouvait faire pour eux, ben, ils ont été épanouis par l'arrivée de ces personnes-là, de nous, etc., dans toutes les communes. Hein. On a tous notre place dans l'entrepreneuriat. Même si on est en décrochage scolaire ou on est mal, etc., je pense honnêtement, et je sais que la jeunesse d'aujourd'hui, elles sont ouvertes à tous, donc je me dis que oui.
L'objectif maintenant, c'est d'essayer d'étendre le parcours entrepreneur du lycée Jules Garnier à d'autres établissements scolaires. Un projet qui est plutôt en bonne voie, selon Julie Micheli, la professeure en charge de ce parcours.
Alors très clairement, le parcours entrepreneur, je pense que là, il est lancé au niveau territorial. Tous les enseignants qui nous ont reçus nous ont demandé à quel moment ils pourraient proposer le parcours entrepreneur dans leur classe. Donc effectivement, nous, ce qu'on avait prévu, hein, c'était que ce parcours entrepreneur, il soit livré clé en main. On va le faire. Nos jeunes du Jules Garnier qui sont venus sur toutes les étapes présenter en fait leur projet, ils présentent leur projet à l'oral devant 50 personnes. C'est pas facile à cet âge-là, mais ils le font. Ils ont développé la confiance en eux. Quand nos jeunes regardaient, en fait, on s'est fait la remarque, les premières parlaient avec d'autres premières, ils avaient une aisance en fait. Et on sentait que les autres se disaient « Waouh, mec !» C'est incroyable qu'ils arrivent à nous parler comme ça, à animer des sessions, mais vraiment comme des adultes. Hein. Donc on se rend compte que c'est fondamental, on se rend compte qu'on a passé un cap avec ces élèves-là et on attend que d'autres professeurs puissent prendre le relais.
Je rappelle que pendant deux semaines, la caravane de l'entrepreneuriat s'est rendue dans les établissements scolaires et les tribus de Koumac, Koné, Touo, Canala, La Foi, Païta, Yaté Ploum, Le Mont d'Or et Nouméa.
Avis aux amateurs de miel, c'est aujourd'hui que le centre d'apiculture organise la 7e édition du concours des miels. Il a débuté ce matin au JPNC, ouvert à tous les apiculteurs professionnels du territoire qui possèdent une carte agricole. Écoutez Romain Guêtre, responsable du centre d'apiculture de Nouvelle-Calédonie.
L'objectif du concours, c'est bien de mettre en avant des miels exceptionnels produits en Nouvelle-Calédonie. C'est aussi de mettre un coup de projecteur, un coup d'éclairage sur la filière d'une manière générale. Les consommateurs connaissent peu le métier d'apiculteur. Ils voient des messieurs et des madames sous des grosses tenues d'astronautes qui vont aller travailler parfois aux abeilles. C'est un dur labeur que d'aboutir à un pot de 500 grammes de miel ou à une bouteille d'un kilo de miel sur le marché. Et du coup, c'est vraiment ça qu'on souhaite mettre en avant à travers cette vitrine qualitative du produit. On est sur quatre catégories différentes. Et là, derrière, pendant deux heures, les jurés vont d'abord travailler de manière individuelle sur le côté tactile, sur l'olfactif et enfin sur l'aromatique. Une fois qu'ils auront fait ça, ils ont une phase de délibération collective où là, ils vont pouvoir un petit peu partager leurs ressentis par rapport à tel miel ou tel miel.
Les membres du jury ont donc dégusté quatre gammes de miel ce matin, les miels de Niaouli, les miels toutes fleurs des îles, les miels toutes fleurs de la Grande Terre et le miel crémeux.
Ça fait la quatrième année que je suis jury. Cette année, c'était un peu différent par rapport aux autres années. Les miels, ils sont plus homogènes. Il n'y a pas eu trop de surprises. Ils correspondaient aux caractéristiques de chaque catégorie. Donc pas de réelles surprises, toujours de très bons miels, des belles découvertes.
Alors cette année, j'étais jury à la table des miels toutes fleurs. Ça a été des miels plus ou moins dans la même catégorie, qui cette année, je trouve personnellement, qui n'ont pas été terribles, pas aussi bons que les années précédentes. Bon, c'est certainement les années qui font ça, hein, entre les floraisons, les mielés, les intempéries.
À ma table, on dégustait les miels de Grande Terre. C'est à peu près retrouvé sur les deux miels les plus clairs qui sont ressortis devant cette année. et ils étaient bien équilibrés, très agréables en bouchée au nez.
La remise des prix doit avoir lieu dans quelques minutes. Les médailles décernées ont été réalisées cette année par les stagiaires de l'atelier menuiserie et métallique du GIEPNC.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 11h45.
Isabelle Autissier termine un séjour de plusieurs semaines sur le territoire. La célèbre navigatrice n'était pas venue en Calédonie depuis 14 ans lorsqu'elle était présidente du WWF France, dont elle est aujourd'hui la présidente d'honneur. Elle est venue, entre autres, constater l'impact des actions du WWF mises en place depuis plusieurs années déjà. Les choses avancent, nous a-t-elle dit.
Ça progresse, oui, évidemment pas assez vite à la hauteur des enjeux, puisque vous êtes une terre incroyable en termes de biodiversité. Hein. Quand on arrive de métropole, on voit que des plantes qu'on ne connaît pas, que des poissons qu'on ne connaît pas, dont on sait que certains n'existent que ici. Donc c'est un enjeu considérable. Alors oui, il y a des choses qui se font, et ça porte ses fruits. Je parlais du Wentoro. Quand j'y étais allé il y a 14 ans, j'avais transpiré comme pas possible pour monter, parce qu'il y avait des tout petits plants minuscules, des petits arbres qui faisaient 20 cm de haut. Aujourd'hui, on circule dans des grands arbres avec une biodiversité exceptionnelle. Donc c'est possible. C'est possible. Dès qu'on ouvre un peu pour la nature, elle peut reprendre ses droits. Maintenant, il y a encore énormément de sujets, que ce soit dans le lagon, que ce soit avec les feux, puisque c'est malheureusement encore un drame pour la Nouvelle-Calédonie, hein. Des dizaines de milliers d'hectares par an, donc il y a encore beaucoup de travail, bien sûr.
Pour le WWF, la lutte pour préserver l'environnement passe par l'accompagnement de projets de proximité, mais aussi par la participation aux grandes réunions internationales.
On y est, bien sûr, puisqu'on est une organisation mondiale, on est présent dans un pays sur deux, donc on a une responsabilité mondiale et on participe à ces grandes messes, entre guillemets, internationales, depuis le début, pour porter des sujets. L'avantage, c'est qu'on peut les porter au niveau de l'ONU, mais on peut les porter dans les 100 pays dans lesquels on est. Donc ça nous donne quand même une force de frappe. Et puis après, on essaye toujours de cranter le maximum. Il ne faut pas attendre de ces grands rendez-vous que ce soit des coups de baguette magique, mais quand même, ça oblige les États, mais quand même, ça permet de cranter un certain nombre de choses. Donc ce n'est pas inutile.
Il y a aujourd'hui de fortes inquiétudes autour de l'environnement, au point que cela atteint le moral de certaines personnes. Il ne faut pas qu'elles baissent les bras, nous a dit Isabelle Autissier.
Moi, je vais dire à ces gens-là, battez-vous, déjà, ça fait du bien à la tête, parce qu'on est avec d'autres gens, on a des objectifs, on est actif pour son avenir. L'avenir, il n'est pas écrit. Il n'y a rien qui est écrit. C'est ce que nous allons faire qui va écrire l'avenir. Et le dixième de degré va compter. Le centième de degré va compter. Il va déterminer peut-être des changements énormes. Regardez, l'eau, elle gèle à zéro degré. Donc, il suffit d'un centième de degré pour que l'eau, elle gèle ou qu'elle ne gèle pas. Donc, voilà. Donc, ça va être déterminant. C'est un combat. C'est le combat du siècle. C'est le combat pour l'avenir de nos enfants. C'est le combat pour notre avenir à nous. Parce que dans 10 ans, dans 20 ans, on sera peut-être encore là, enfin je l'espère. Donc voilà, donc il faut absolument se cramponner à ça, il faut le faire ensemble, ça évite de se désespérer.
Une Isabelle Autissier quitte le territoire ce soir. Elle mène aussi une carrière dans l'écriture, puisqu'elle a déjà plusieurs romans remarqués à son actif. Elle vient aussi de publier une BD sur la préservation des océans, illustrée par Zelba et intitulée « Une bouteille à la mer ». Une information pratique pour les usagers des radiotaxis de Nouméa. Au centre-ville, la place de stationnement des taxis n'est désormais plus située le long de la place des Cocotiers, rue Anatole France, mais dans le carré Roland, en face du complexe Megastore. Un déménagement en raison des travaux qui débute dans le centre-ville. L'actualité dans la région et le Vanuatu envisagent d'expulser tous les conseillers étrangers qui sont basés dans les bâtiments gouvernementaux. Il s'agit, selon les dirigeants vanuatais, de préserver la souveraineté nationale. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Cette menace est venue en réponse à l'amendement que le Parlement de l'archipel a adopté la semaine dernière et qui stipule que, je cite, « tous les conseillers étrangers impliqués dans des travaux relatifs à la sécurité nationale doivent être basés dans des lieux neutres ou à leur ambassade et ne peuvent accéder aux locaux gouvernementaux qu'avec une autorisation ministérielle. Cette mesure va concerner en priorité les policiers australiens, néo-zélandais et chinois présentement en poste à Port Vila. Le porte-parole du gouvernement, Kiri Manassa, a indiqué que, je le cite, « les conseillers étrangers pourront toujours accéder aux bâtiments gouvernementaux, mais ne pourront pas y résider en permanence. Cette mesure permettra au Vanuatu de préserver sa souveraineté », a-t-il insisté. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 11h50, une nouvelle pause dans ce journal et dans un instant, ce sera l'actualité en métropole.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole, on retrouve Jean-François Baudin.
Oui, en métropole où les MNA sont au cœur de l'actualité. Les MNA, ce sont les mineurs non accompagnés. À Grenoble, l'un d'entre eux, âgé de 12 ans, originaire d'Afrique du Nord, a été touché par plusieurs balles de pistolet dans un quartier proche d'un point de deal lors d'un règlement de compte. Un fait divers tragique qui illustre un problème de plus en plus difficile à gérer pour les collectivités. Ces jeunes étrangers isolés sont en effet de plus en plus nombreux. Laura Legault pour Europe 1.
En 2024, la France a accueilli plus de 13 500 mineurs isolés selon les données du ministère de la Justice. Un chiffre qui a presque triplé en 10 ans. Ces jeunes sont majoritairement originaires d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord. Les pays d'origine en tête sont la Guinée, le Mali et la Côte d'Ivoire. Arrivés en France, ils sont pris en charge par les départements et l'aide sociale à l'enfance qui disposent de 5 jours pour évaluer leur isolement et leur âge grâce à des entretiens et des examens osseux. Car pour être considéré comme mineur isolé aux yeux de la loi française, il faut remplir 3 conditions: avoir moins de 18 ans, être de nationalité étrangère et être arrivé en France sans parent ou représentant légal. Les mineurs non accompagnés ne peuvent pas être expulsés et sont toujours plus nombreux. Conséquence, les départements sont débordés, d'autant que leur prise en charge a un coût. Entre le logement, l'alimentation et la sécurité sociale, l'Assemblée des départements de France évalue ses dépenses à 50 000 euros en moyenne par mineur et par an.
Faut-il expulser de leur HLM les familles de narcotrafiquants? Selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche, 7 Français sur 10 y sont favorables. À Marseille, la loi contre les narcotrafiquants permet d'appliquer cette mesure et depuis septembre, une vingtaine de procédures sont en cours, a rappelé la préfète Corinne Simon avec un exemple récent.
Dans le cadre d'une perquisition, la police est rentrée dans un logement. Nous avons découvert 2,5 kilos de résine de cannabis et du numéraire. Ce logement, en fait, sert de nourrice. Et donc, nous allons pouvoir maintenant saisir le bailleur de façon à ce que cette personne puisse être expulsée au plus vite.
Expulser de leur HLM les familles de narcotrafiquants, c'est une politique qu'il faut poursuivre, selon le maire LR des 11e et 12e arrondissements de la ville, Sylvain Souvestre.
Il y a plus de 20 000 demandes en cours de logements sociaux. Il est totalement aujourd'hui anormal que des logements servent à héberger des trafiquants, soit des personnes qui viennent dealer pour eux.
Et puis toujours à propos de Marseille, un mot sur la préparation des élections municipales. La France Insoumise a validé ce week-end la candidature à la mairie de Marseille de Sébastien Delogu. La nuit prochaine pour nous, Emmanuel Macron réunit un nouveau sommet Choose Friends pour inciter les investisseurs à s'engager en métropole. La particularité de ce nouveau sommet, c'est qu'il s'adresse uniquement aux entreprises françaises. Le chiffre annoncé est de 30 milliards d'euros d'investissement, mais seuls 9 milliards concernent de nouveaux projets. Il faut dire qu'investir dans le contexte local n'est pas simple. Arthur Delaborde pour Europe 1.
C'est une opération séduction, des tables rondes en présence de ministres, puis un dîner à l'Élysée. Pour rassurer les patrons face à l'instabilité budgétaire et politique, l'exécutif veut montrer qu'il tient la barre. Dans l'entourage de Sébastien Lecornu, on parle de remettre de la raison. Comprenez, rappelez que le Parlement n'a pas le dernier mot sur le budget. En parallèle, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, martèle que la folie fiscale doit être combattue. Un message directement adressé aux organisations patronales très remontées contre les taxes votées ces dernières semaines, qu'elle chiffre à 53 milliards. Sur le terrain, les signaux sont au rouge, investissement retardé, inquiétude qui monte. Et même à début de fuite, certains préfèrent déjà investir ailleurs depuis la dissolution. Avec Choose France, l'exécutif tente d'afficher le visage inverse, celui d'un pays qui produit, qui investit, avec des annonces positives, Safran, Urgo, Sanofi, Mistral. Mais derrière, la réalité est plus rude, à l'image des fermetures d'usines. Au premier semestre, elles ont été deux fois plus nombreuses que les ouvertures.
Il est 11h54, la fin de ce journal.